À deux, c'est mieux, avec Luc Denoncourt et son invité, sur les ondes de CJSO 101.7 FM.
C'est la première fois qu'elle vient nous voir à l'émission, mais je suis très content de la recevoir. Annie Broccoli, comment vas-tu?
Ça va bien, moi aussi, je suis très contente d'être là.
Annie, on me demandait Annie Broccoli ou Annie Grenier, mais tu gardes le nom Broccoli, même si tu as arrêté les spectacles pour enfants.
Oui, je garde le Broccoli. En fait, je l'ai eu avant le Broccoli, avant d'être une chanteuse pour enfants, même que quand j'ai sorti mon premier album, mon producteur, il voulait pas que je mette le nom Broccoli. Il n'y a rien qui fait moins pour enfants que ça. Les enfants aiment moins le Broccoli.
Ouais, t'as raison. Ouais, ouais.
Mais là, c'est devenu un nom qui associé aux enfants, mais moi, je le garde parce que je l'avais avant, puis je l'aime.
Et puisqu'on parle de ce nom que tu avais avant, la musique qu'on a entendue aussi, c'est de la musique que tu écoutes depuis longtemps. Thelma Houston, I've Got the Music in Me, c'est un souvenir d'enfance, carrément.
C'est un souvenir d'enfance. C'est du plus loin que je me rappelle quand j'ai eu ma table tournante. C'est un des premiers albums que j'ai eu. Puis c'est la genèse de ma carrière, en fait. Les premiers spectacles que je faisais dans ma cave, à but non lucratif, ça coûtait une pièce pour entrer, et j'invitais le nombre de personnes que ça allait me coûter, en fait. Fait que c'était une pièce, si ça me coûtait 20 pièces, j'invitais 20 personnes. Fait que je faisais un petit goûter, puis tout ça. Puis il y avait tout le temps, dans tous mes spectacles, il y avait « I've got the music in me ». Je trouve que Thelma Houston, elle a un espèce de « groove » pas possible. Ça vient me chercher dans mes tripes. Puis en plus que ça dit cette chanson-là, « I've got the music in me », c'est vraiment ça. La musique, elle a une importance incroyable dans ma vie. Puis avant Noël, je me suis fait un cadeau.
Oui, t'as acheté cadeau, une table tournante. J'ai vu ça sur Facebook, ben oui.
Oui, puis j'ai retrouvé, en fait, ma mère m'a donné ce disque-là qu'elle avait gardé de Thelma Houston. Puis je l'ai remis avec mes graphings là, que j'ai fait quand j'avais 5, 6, 7 ans.
Ouais.
Le même. Puis je l'ai fait jouer. J'avais des frissons, les larmes aux yeux. J'étais vraiment super émue. C'est une chanson, la chanson la plus importante, je pense.
Tu as lancé ton premier livre
en
mal des mots.
Exactement.
Où tu parles de ta dyslexie, où tu parles de la différence.
Ouais.
Comment est arrivée l'idée de ce livre-là, d'abord?
Ben, en fait, c'est... je voulais... j'avais décidé de tirer un trait sur ma carrière de chanteuse pour enfants. Puis je me demandais ce qu'allait être la suite. Puis ça fait comme 4-5 ans à peu près que j'ai une histoire d'un petit garçon qui s'appelle Philémon, qui a vécu dans les années 60, qui était un cancre.
OK.
Fait que je voulais écrire cette histoire-là, en fait, que je voyais en film. Puis, je me suis assise un soir, from scratch, là, devant Word, la page blanche. Puis, j'ai commencé à écrire, puis finalement, je me suis rendu compte que l'histoire que j'écrivais, bien, c'était la mienne, au lieu d'être la sienne, celle de
c'était plus Philémon, là.
C'était plus Philémon. Okay. J'ai appelé mon ami Max Landry. J'écoute, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire là. On dirait que j'écris sur moi. Ben là, il dit, mais lis-moi ce que tu as décrit à date. J'avais 6-7 pages à peu près. Fait que j'étais au téléphone, puis j'ai lu ça. Ben, il dit, ma chum, t'es en train d'écrire un livre. T'es en train d'écrire ton histoire sur ta dyslexie, sur ta différence, tu sais. Puis j'ai fait comme, hein, ça se peut pas. Tu peux-tu être dyslexique puis finir par écrire un livre dans ta vie à un moment donné? Puis, ben, c'est ce qui est arrivé, en fait. Tu sais, puis en fait, il y a une grosse relation entre l'histoire que j'avais dans la tête de Philémon puis la mienne, parce que c'est sûr, sa différence à lui que je voulais écrire. Puis probablement que si j'étais née dans les années 50, peut-être qu'on m'aurait qualifié de cancre.
Oui, peut-être, ben oui.
Parce que quand tu penses différemment, quand t'es pas capable d'écrire, de lire correctement quand t'es jeune, mais t'sais, on te catégorisait dans ce temps-là comme étant autre chose. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des inventeurs sont dyslexiques.
Oui.
C'est des gens qui bougent tout dans leur tête, puis... on n'aurait peut-être pas de lumière si Edison n'était pas arrivé sur la planète, puis lui, c'est un grand dyslexique, tu sais. Puis qu'on qualifiait effectivement de cancre. Alors, finalement, c'est cette relation-là entre Philémon puis moi qui a fait que c'est devenu mon histoire à moi.
T'as une préface de Jeannette Bertrand. Jeannette Bertrand, c'est un de tes... C'est ton modèle.
Ouais,
parce qu'elle est dyslexique,
ouais.
Jeannette Bertrand. Mm. Et elle a écrit, premièrement, énormément de télé.
Mm-hmm.
Après ça, énormément de livres.
Ouais.
Donc, pour toi, adolescente, Jeannette Bertrand, c'est un peu ton idole.
C'est mon idole, encore aujourd'hui. C'est une fille qui, qui a fait avancer les femmes beaucoup,
oui,
qui a parlé de la différence toute sa vie, que ce soit de l'homosexualité, que ce soit, elle a parlé de sa dyslexie aussi.
Oui.
Puis je pense que si elle n'en avait pas parlé quand j'étais adolescente, probablement que je ne me serais pas donné le droit de rêver comme ça. T'sais. Je me suis comme dit, ben elle, si elle est capable d'écrire, ben moi aussi d'abord, tu sais. Fait que, puis ce qui vient avec la dyslexie, avec cette différence-là, c'est que, tu sais, quand tu vois les lettres bouger au tableau quand t'es jeune à l'école, mais c'est que tu fais ça avec tout. C'est-à-dire que moi, quand je vois quelque chose, je le vire dans tous les sens, puis je suis capable de le transformer à plein de choses. Donc, c'est un imaginaire incroyable. Sauf que, ben on est buté à l'écrire après cet imaginaire-là, puis des fois, ben on peut s'arrêter à ça ou pas. Continuer. Puis elle a continué malgré tout, même si elle était pas capable de mettre un accent grave puis un accent aigu. Merci infiniment. J'ai comme si lequel de quelque part. Et voilà, me voici. Fait que, tu sais, ça l'a pas arrêté. Donc, pourquoi est-ce que moi, ça m'arrêterait? C'est ça que je me suis dit.
Et c'est une surprise, la préface. Toi, t'as lancé ça dans l'univers, t'en as parlé à ton éditrice, ouais. T'as dit, j'aimerais ça.
Mais sans aucune attente.
Mais sans rien.
Non, sans aucune attente, je me suis dit, ben, je vais le dire, parce que dans la vie, il faut rêver, puis il faut
on
demander.
On lance ça dans l'univers.
Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, je m'en allais à un spectacle, je suis sur la rue, je reçois la couverture de mon livre sur mon cellulaire.
Pour approbation.
Pour approbation, exactement. Fait que je regarde la couverture, puis je fais comme, hein, c'était écrit préface de Jeannette Bertrand. Fait que là, j'appelle mon éditrice, j'attends, mais il faut y envoyer le livre pour qu'elle lise. Elle peut pas faire une préface de même. Ben, elle fait comme, ben, pauvre toi, elle l'a lu. Elle a super aimé ça. Puis pour elle, c'est important de faire la préface de ce livre-là pour que les parents le lisent, qu'ils comprennent ce que c'est qu'être différent. Je capotais.
C'est un cadeau immense, là.
Un cadeau immense, une confiance, un appui. Je vais m'en rappeler toute ma vie.
Est-ce que ça a été dur d'écrire ce livre-là? Parce qu'évidemment, c'est retourné dans ton enfance, à l'école, où on détecte cette dyslexie-là, où tu comprends que c'est pas facile, où l'école est pas facile pour toi. Est-ce que c'est difficile d'écrire ces moments-là de ta vie?
Là, je sais qu'on est dans un restaurant, mais je vais quand même le dire, je l'ai vomi, ce livre-là. Ça a sorti comme...
Il y avait quelque chose de pogné, puis il fallait que ça sorte.
Oui, ben en fait, c'était... Comme la fin de ma thérapie, j'ai été en thérapie pendant 4 ans pour tout sortir ça, de jamais toujours sentir que j'ai pas le droit d'être là, puis parce que je suis pas assez bonne, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Fait que j'ai fait cette thérapie-là pendant 4 ans, puis ça aboutit comme à la fin. Fait que c'est comme la cerise sur le sundae d'une libération. Fait que j'ai pleuré à certains moments, mais avec douceur, tu sais, ça m'a pas fait mal, ça m'a pas torturé, c'était comme « Ah! » Ça a été hyper libérateur, puis c'était comme la fin, je pense, de cette espèce de défense-là que j'avais de jamais me sentir assez bonne, jamais me sentir... Fait que, ouais, ça a fait bien du bien, mais c'était très doux dans mon cœur.
Et à la fin, tu lui écris une lettre à cette petite fille-là.
Oui, c'est là que j'ai pleuré.
J'imagine, ouais. Parce que là, on replonge vraiment là-dedans, puis qu'est-ce que j'ai envie de dire à cette petite fille-là qui a donc de la difficulté.
Et puis ça, je pense que tout le monde, dyslexique ou pas, différent ou pas, on devrait tout faire ça.
Écrire une lettre à nous quand on est enfant. Oui,
parce que, ben en fait, dans mon livre, c'est des chapitres de A à Z. Ouais. J'avais besoin de mettre les lettres au lieu des chiffres. Puis le chapitre Z, c'est vraiment, je m'assois comme devant la petite fille de 6 ans que j'étais. Puis j'ai dit, hey, inquiète-toi pas, regarde, tu vas te débrouiller. Grâce à ta différence, tu as un imaginaire, tu vas l'imaginer ta vie. Inquiète-toi pas. Puis c'est comme ressentir de la compassion envers toi-même, envers l'enfant que tu étais. Puis sérieusement, je pense que tout le monde devrait faire ça. Ça close quelque chose, ça fait vraiment du bien.
Le soir du lancement, tu as lu un mot devant public, chose que tu ne fais pas souvent, évidemment.
Très rarement.
Tu étais très ému.
Oui.
Le soir du lancement, ça représentait quoi pour toi cette journée-là? Tous tes amis étaient là. Évidemment, Annick Lemay, qui sortait pas souvent à ce moment-là parce qu'en raison de son cancer. C'était quand même pour toi de lire ça devant tes enfants, ta famille, tes amis.
Ben, c'était très émouvant. Évidemment que pour moi, lire en public, c'est toujours très stressant, de moins en moins, parce que maintenant, je me donne le droit de m'accrocher quand je lis. Mais c'était émouvant parce que toutes les personnes qui étaient là savent par quoi je suis passée, tu sais. Oui. Ils m'ont vu rusher, ils m'ont vu travailler trop fort parce que je trouvais que j'en faisais jamais assez. Ils m'ont vu comme... C'est comme si je leur témoignais, « Hey, garde, je lâche. Je lâche. » je vais juste vivre comme je suis, puis je pardonne tout, puis je parle à ma petite fille, puis j'y fais un câlin, tu sais. Fait que c'était de leur dire, OK, c'est fini. Puis ils savaient aussi que c'était fini, mon espèce de combat de vie que je m'étais imaginé, tu sais. Fait que ça m'a fait bien du bien.
Quand tu l'as reçu ton livre, la fameuse boîte de livres où on les reçoit, c'est comment ça? Parce que là, c'est pas un roman, c'est vraiment un bout de ta vie.
Oui, ça, c'est quelque chose aussi. Je l'ai mis sur la table. En fait, j'ai fait ça avec tous mes albums. Je mange. En fait, je le mets comme napperon.
OK.
Puis je mets mon assiette dessus. Puis je mange comme si c'était mon napperon. Je sais pas pourquoi, depuis le premier album, j'ai toujours fait ça.
OK.
Puis, mais je me rappelle qu'en ouvrant la boîte, c'était autre chose qu'un album.
Oui.
C'était vraiment...
On n'est pas dans le fantastique, là.
Non, on n'était pas dans le fantastique. On était dans le vrai. Je suis plus cachée derrière un personnage. Ce qui est bon, ce qui est vraiment sain aussi, tu sais. C'était toute moi, Annie Broccoli, la chanteuse pour enfants, mais il en manquait un bout. C'est comme si là, tous les bouts s'étaient mis ensemble, puis que là, c'était moi au complet. Fait que ça m'a fait bien de quoi. Ouais.
Tu as particulier de te recevoir ici à Sorel-Tracy, c'est que l'aventure des spectacles pour enfants, c'est terminé ici.
Exactement.
À Sorel-Tracy. Ouais. J'étais dans la salle ce jour-là et personne ne savait que tu allais annoncer que c'était terminé les spectacles pour enfants.
Oui. Puis toi, je sais pas si tout le monde l'a compris, je l'ai dit comme. Je sais pas si
à
c'était clair.
Fin,
ouais, c'est ça. Puis j'avais le cœur gros. En fait, j'en avais pas parlé à personne dans les médias, mais j'avais besoin de dire au revoir aux petits Québécois. Je savais qu'il m'en restait un en Ontario.
En Ontario,
ouais. Mais ouais, ça a été mon dernier spectacle ici, il me semble. C'est à peu près, peut-être au mois de mars, peut-être, l'année passée. Puis, ben c'est ça. Je savais où je m'en allais déjà. Tu sais, le livre était terminé d'écrire. Puis je savais que l'aventure allait m'amener ailleurs. Mais c'est un pan de ma vie, c'est 19 ans de ma vie qui prenait fin cette journée-là. Fait que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions.
C'était aussi la fin d'une aventure sur scène avec ta fille, parce que Marie-Jeanne t'accompagnait sur scène dans les dernières années, c'est elle qui faisait Germaine. Donc,
ouais.
Est-ce que c'était difficile, ça, de dire on arrête cette aventure-là, mère-fille sur scène?
Non, pas cet aspect-là, parce que Marie, je vais tout le temps travailler avec. T'sais, là, dernièrement, on a fait des petites capsules pour mes conférences, puis c'est elle qui a monté, c'est elle qui a filmé, c'est elle qui a fait le son. Fait qu'on se retrouve encore dans des studios, puis je sais qu'à un moment donné, on va sûrement avoir une émission de télé ou quelque chose de même. Là, t'sais, on va faire de quoi ensemble, c'est sûr. Fait que c'était triste ben, pour Germaine, puis elle, ben, elle quittait Germaine, évidemment. Mais pour nous deux, on sait qu'on va travailler ensemble encore, tu sais. Fait que ça va.
C'est 19 ans de ta vie, donc les plus jeunes sont maintenant des adultes.
Ah ouais.
Ceux qui te suivaient au départ d'Annie Broccoli sont maintenant des adultes. Ça te fait quoi quand tu les crois, ces grands-là, disent « Annie, tu fais partie de mes beaux souvenirs d'enfance? »
Mais d'ailleurs, quand j'ai annoncé, mais pour vrai, comme sur Facebook au mois de septembre dernier, que c'était terminé, que j'accrochais mes patins et tout ça, les mots qu'il y a eu en dessous de ce post-là sur Facebook, c'est incroyable. Des enfants devenus maintenant grands de 25 ans, même 26 ans, qui ont eux-mêmes des enfants des fois, m'écrivaient « Écoute, la joie que tu as apportée dans ma vie quand j'étais jeune, l'imaginaire, des mots qui m'ont fait... » J'avais pas conscience de ça, tu sais, vu que j'avais l'espèce de syndrome d'imposteur. Moi, j'étais jamais satisfaite, mais quand je reçois ça maintenant, aujourd'hui, parce que maintenant, je l'entends puis je le sens jusque dans mon cœur, c'est incroyable comment c'est touchant. Puis même les adolescents, tu sais, je vais maintenant dans des écoles pour faire des conférences, puis les ados... Il n'y a pas de « Ah, c'est pas cool ». Non, c'est comme « Il me trouve encore cool ». Il y a quelque chose de il y a de l'amour profond, tu sais. On s'aime pour vrai. C'est pas juste être fan d'un artiste, c'est qu'il a été là dans ton enfance, puis il t'a raconté des histoires. C'est pas pareil, tu sais. Moi, Fanfreluche, quand j'ai rencontré Kim, je suis allée lui porter des fleurs. Elle faisait un spectacle sur... elle racontait son arrivée ici au Canada. Okay. Puis je suis arrivée avec mes fleurs, puis j'avais plus rien à dire.
T'as gelé?
J'ai gelé, comme les enfants, des fois, faisaient devant moi, tu sais, parce que c'est tellement profond, l'amour que j'ai pour elle. Elle me parlait à moi dans ma télé. C'était incroyable. c'est des moments, je pense qu'on ne revit plus jamais ça, tu sais. Un jour, on tripe sur quelqu'un, ouais, sur un artiste, fait. Mais pas de la même façon.
Privilège que ces familles-là t'aient choisi tout au long de cette vie-là.
Tellement, tellement privilégié, c'est incroyable. Ouais, c'est plus que j'avais rêvé, en fait. Tu sais, j'ai rêvé
de... T'as donné le droit de rêver à tout ça? Parce que t'avais de la difficulté à être fière de toi. Puis tu as parlé du syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu donnais le droit de rêver à ça?
Bien, en fait, quand je suis sortie de l'école, ce que je raconte d'ailleurs dans ma conférence, c'est que j'avais plus d'estime de moi du tout, tu sais. J'étais comme à moins 1000. Fait que tout ce que je cherchais, c'était d'avoir une réussite, peu importe dans quoi, tu sais. Puis, à un moment donné, en fait, la façon que j'ai réussi à rêver, c'est de retourner dans mon petit corps d'enfant. Parce que quand on est petit, on croit aux super-héros, aux fées clochettes, à tout, tu sais. Puis, on pense qu'on pourrait être la plus grande chanteuse au monde, puis, tu sais, bon. Fait que je suis retournée là, puis je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu aurais le goût de faire? Puis, à un moment donné, mes désirs, comme d'enfant, si tu veux, mais c'est hyper pur, ça, ont dépassé mon estime de moi. Et c'est là que j'ai commencé à être capable de rêver. C'est là que j'ai rêvé au personnage Annie Brocoli. C'est là que tout ça s'est construit dans ma tête avec mon imaginaire. Mais après, une fois que... Tant que ça marchait pas tant, ça marchait assez rapidement, là. Mais tant que c'était le début, j'étais fonceuse. Ah ouais, j'y vais. Puis, tu sais, je courais après, je voulais l'avoir, là, tu sais. Mais une fois que je l'ai eu, puis que là, les salles étaient pleines, là, c'est là que j'ai senti que j'étais pas assez. Fait que moi, je restais... jusqu'au dernier petit enfant pour signer les autographes. Puis c'était jamais assez. Je me disais, oh, il me semble que lui, j'ai passé moins de temps quand je revenais chez nous. Parce que je sentais que je leur devais quelque chose parce qu'ils m'aimaient, tu sais. Ça a été comme bien un gros conflit dans moi. Puis j'en faisais tout le temps plus que pas assez. Tu sais, j'allais voir des enfants qui étaient malades, faire 7 heures de route aller-retour pour aller voir un enfant qui est malade, c'est extraordinaire. Je le ferai encore aujourd'hui, mais pas de la même façon. Je le ferai parce que j'en ai envie, parce que... Puis je me laisserai la place aussi de dire, ben écoute, c'est pas possible, tu dormiras pas. Tu sais, faut que tu passes quand même un peu avant. Mais avant, tout le monde passait avant moi, tu sais. Fait que c'est ça, les choses qui ont changé. Mais j'ai réussi à rêver en retournant dans mon petit corps... de petite fille.
Le premier enfant malade, si je ne me trompe pas, il est nommé dans le livre, c'est Étienne?
Émile.
Émile.
Oui.
Qui c'est... attendait pour une transplantation cardiaque.
Oui, exactement.
Et tu es allé le voir pour juste lui donner de l'amour. C'était comment ce moment-là pour toi?
Ben, en fait, ça a été super dur parce que mes enfants... Moi, j'allais pas voir les enfants malades au début. Après ça, je les ai toutes vues, là, puis j'ai tout aimé, puis j'ai tout donné. Mais au début, je n'étais pas capable parce que les enfants malades, pour la plupart, qui me demandaient, avaient l'âge de mes enfants. Puis ça me bouleversait, puis je me sentais pas assez, je ne vais pas les guérir, fait que ça sert à quoi? Toute l'espèce de charabia que je me racontais dans ma tête. Puis à un moment donné, ben cette maman-là, elle appelle, a dit à mon gérant, ben il est vraiment découragé, Émile. J'ai besoin... de lui donner comme un petit boost. Puis je pense que c'est juste Annie Brocoli qui peut faire ça. Fait que mon gérant me dit ça, il dit, garde, vas-y donc. Je suis allée. J'ai chanté une chanson, sa chanson préférée, puis j'ai donné des brocovitamines, c'était comme des collants. Puis je disais, à chaque fois que tu vas te faire piquer, puis tu vas être tanné, tu vas mettre une brocovitamine, puis ça va nous connecter ensemble, puis je vais être avec toi, tu sais. Je suis partie de là, puis je me sentais ridicule avec mes brocovitamines. Je savais pas de bon sens, puis j'étais complètement à l'envers. Puis quelques mois plus tard, ben le petit Émile, il a eu son cœur, son cœur neuf. Puis à un moment donné, il y a à la télé, il y a quelqu'un qui demande, la mère est en entrevue, qu'est-ce que vous avez fait quand votre petit Émile a été découragé? Puis elle a dit, ben j'ai appelé Annie Brocoli, puis elle est venue lui donner des brocovitamines. Puis ça m'a fait du bien à moi dans mon cœur de mère. Puis ça a encouragé mon garçon, tu sais. Puis là, ma mère a pogné le téléphone, on écoutait le même poste. Ça fait comme « Bam! Je te l'avais dit! Regarde, t'es chanceuse! T'es capable d'être magique! Ah ouais, vas-y! » Puis c'est vrai, tu sais, c'est un privilège d'être magique pour ne serait-ce que 3 ou 5 minutes, tu sais. Fait que pourquoi pas? Pourquoi pas, même si je peux pas le guérir, même si je me sens pas assez, si pour lui c'est assez, je peux-tu comme le faire de tout mon cœur? Fait que c'est là que j'ai commencé à répondre à tous les enfants. Puis Émile, il a changé ma vie. Il m'a donné comme il m'a donné comme un pouvoir. Il m'a fait ressentir que j'avais un pouvoir de bonheur, de semer du bonheur. Puis on... We're all trying to matter. On essaye tous de faire une différence à la planète. Fait que ça m'a donné le goût de le faire, tu sais. C'est vraiment une rencontre extraordinaire, cette famille-là.
Dans le livre, on se rend compte rapidement que tu manques pas de guts. Très jeune, tu vas visiter Radio-Canada avec ta mère. Tu fais semblant que tu as un rendez-vous avec la fille du casting. Tu dis ça au gars à l'entrée. Et tu réussis à te rendre
à
quelqu'un.
Ouais.
Après ça, ton premier album, ton premier show,
ouais.
tu fais croire que tu es une star à Saint-Hyacinthe et que le monde t'attend à un producteur.
Ah ouais. Mais il m'a cru.
Qui t'a cru? Est-ce que c'est la dyslexie qui faisait ça? Est-ce que c'est tu compensais par cette espèce de fougue-là de dire « je vais y arriver malgré tout ça? »
Bien, je pense que c'est les trésors qui viennent avec la dyslexie. Moi, dans vie, ce que j'ai compris à l'école, c'est que pour avoir quelque chose, il fallait que tu travailles hyper fort. Il n'y a rien d'acquis. C'est pas parce que tu veux quelque chose que tu vas l'avoir. Fait que c'est ce que j'ai compris de la vie, tu sais. Fait qu'après, ben j'ai juste continué à faire la même affaire, puis ça s'est adonné que j'étais meilleure dans ces affaires-là qu'à l'école. Fait que j'ai poussé dans quelque chose où j'avais déjà du talent, j'avais déjà... Puis moi, j'ai toujours aimé le monde. Puis fait que c'était comme normal pour moi que je travaillais super fort puis de trouver des trucs, parce qu'à l'école, c'est ça que je faisais, je trouvais des trucs. J'ai jamais lu un livre de ma vie. Fait que moi, je lisais en arrière le résumé, puis là, je repérais les mots dans le livre. Après ça, je demandais la fin du livre à mes amis. Fait que j'ai fait la même chose avec ma carrière, tu sais. Je suis comme, OK, lui, je vais lui faire croire que je suis une star à Saint-Hyacinthe. Il va venir. Je vais dire à Volkswagen Saint-Hyacinthe que je suis déjà signée par Donald. Et que ça me prend une coccinelle. Fait que lui, il va m'adonner parce qu'il pense que je suis signée. Puis là, je vais aller voir l'autre qui m'a pas signée, puis je vais lui dire, j'ai déjà ma coccinelle. Puis on va mettre ça tout ensemble, ça va marcher. Puis c'est ça qui est arrivé, ça a marché.
En même temps, c'est un coup de dé immense.
Ouais.
Il aurait pu en avoir un dans tout ce cercle-là qui décide qu'il y va pas. Là.
Ma mère était bien à bout. Bien à bout. J'avais deux jeunes enfants de 2 et 4 ans. Puis le père de mes enfants, il lâchait sa job pour me suivre dans les centres d'achat où on faisait pas d'argent. Tu sais, ça nous coûtait de quoi, genre pour faire le tour des... J'avais booké 15 centres d'achat. Puis là, ben, je lâchais ma job, moi aussi, fait qu'il n'y a aucun revenu qui rentre, avec une avance de ma maison de disques de 6 000 $ après, quand j'ai été signée. Mais même avant ça et pendant, elle me disait, mais t'es pas responsable. Qu'est-ce que tu fais? T'as des kids, vous lâchez tout. Puis je dis, mais maman, si je le fais pas, ça se passera pas. Au pire, je vais me ramasser, je vais passer à Zamboni, puis on va s'arranger, tu sais. Fait que c'est ça.
Annie, en 2013, tu reçois un appel pour aller chanter à la fête de jumeaux un petit peu célèbre.
Ouais. Et ça, je me rappelle même où j'étais sur la 20. Le téléphone sonne, puis ça marque le club de golf Le Mirage. Ouais. Là, je fais comme moi, je joue pas au golf. Le Mirage, pour moi, ça sonne Céline pas mal. OK, je réponds. J'ai deux mains sur le volant, puis je me cale un peu dans mon, dans mon siège. Je fais « Allô? » oui, bonjour, on vous appelle parce que c'est la fête des jumeaux de Céline. Et elle aimerait beaucoup que vous veniez chanter chez elle pour ses jumeaux. Oui! Super! Parfait! On se rappelle tout à l'heure? Oui! Écoute, y a-tu quelque chose que je voulais pas vivre dans ma vie d'aller chanter devant la meilleure chanteuse au monde? C'est exactement ce que je voulais pas. Mais, écoute, j'ai fait une thérapie d'un mois. Je suis allée voir ma thérapeute qui m'a dit, garde, Céline, c'est une maman. Ce qu'elle veut.
Faut ça pour ses enfants, mais oui.
Ce qu'elle veut, c'est que tu viennes faire plaisir à ses enfants. Puis c'est son cœur de maman qui va être là. Ça sera pas la technicienne de la voix. Ça va être son cœur de maman. Puis là, j'essayais d'intégrer ça. Et la meilleure pour me faire intégrer ça, c'est qu'à un moment donné, ben on se parlait souvent parce que là, eux autres, ils voulaient que je fasse arranger mon premier décor. Puis, tu sais, on a tout déménagé
ça. La grosse
ça,
patente,
là.
La grosse patente. C'est un vrai show.
Ouais, ouais.
Okay.
Puis des accessoires, puis blablabla, bla, bla, tout ça. Et à un moment donné, le téléphone sonne et là, je réponds. Moi, je suis certaine que ça va être le gars avec qui je parle pour ce spectacle-là, depuis le début. Et là... C'est Céline qui commence à me chanter « Ma coccinelle, c'est mon cheval » avec l'accent tout, puis elle me parle en germaine. Je capotais. Elle sait tout par cœur, un. Deux, elle me dit, là, tu sais, l'intelligence émotionnelle de cette femme-là, c'est extraordinaire. Elle dit, là, je veux pas que tu t'énerves avec ça, là. Moi, juste que tu sois là, je vais capoter bien raide. Je te dis juste de te voir la face puis de voir les yeux de mes enfants, ça va être parfait. Fait que là, tu t'énerves pas avec ça, là. Elle me parlait de même. J'étais comme, non, ben non.
C'est sûr que non.
Mais il y a quelque chose qui a comme... qui a apaisé. Puis, tu sais, qu'elle prenne le temps de faire ça, c'est parce qu'elle devait se dire, hey, ça doit être trop, venir chanter dans mon salon, tu sais. Elle a cette intelligence émotionnelle-là, cette femme-là. Elle est tellement fine, là. J'ai arrivé là que c'est comme si j'étais sa meilleure amie. Puis là, elle m'imitait les nanas bananas, comme elle kissinait sur une patte, puis je me rappelais même plus de ça, d'ailleurs. elle savait tout par cœur. En fait, je me suis retrouvée devant 20 personnes, dont juste 7 enfants. Et mes back vocals ont été faites par Céline Dion et son gendre, Marc Dupré. Les deux savaient toutes les tunes. Fait que moi, je chantais avec mes musiciens.
Fait qu'il y avait les enfants de Marc aussi, forcément.
Oui, c'est ça. Puis eux autres faisaient les back vocals. Je fais, y a-tu de quoi dans la vie que tu penses que tu vivras pas? J'ai jamais rêvé à ça. C'était incroyable.
Quand tu sors de là, c'est quoi le feeling qui t'habite? Es-tu un nuage?
Je suis sur un nuage comme surprise pendant le temps que je suis là, puis je finis par être bien, ce qui est quand même extraordinaire. Puis quand je suis rembarquée dans mon auto, il n'y aurait pas eu de wiper assez fort pour arrêter les larmes dans mes yeux. Je conduisais, je voyais rien. C'était vraiment comme j'étais émue profondément d'avoir vécu ça dans ma vie, d'avoir eu cette considération-là, tu sais, de la part de quelqu'un que j'admire, forcément. Puis, c'est ça. C'était juste comme too much.
Tout à l'heure, je parlais du lancement de ton livre où tu as lu devant public, mais tu as fait ça aussi au mariage de ton amie Chantal Lacroix.
Ouais.
C'était comment ce moment-là pour toi? Parce qu'évidemment, on veut le faire pour son amie.
Ouais.
Mais il y a un côté troublant parce qu'on va le lire devant des gens, j'imagine.
Oui. Mais ça, c'est la première fois que j'ai lu
devant public.
Devant du monde. En fait, on était juste 20. Mais c'est le début de ma réflexion sur ma dyslexie que je me disais, OK, là, faut que je lâche, là, faut que j'arrête ça. Là. En fait, c'est que sa belle-sœur, moi, j'étais la seule qui savait qu'il allait se marier, tu sais, parce que j'étais témoin. Puis, fait que tout le monde est arrivé pour un brunch, puis finalement, en grand Chantal Lacroix, elle dit, ben, finalement, vous allez assister à mon mariage! Fait que là, les autres, ils ont fait comme, tout le monde est tombé à terre. Puis là, elle demande à sa belle-sœur de lire un texte sur l'amour. Puis sa belle-sœur, enfin, braillée.
C'est sûr, elle vient d'apprendre qu'elle est mariée.
Ben oui. Fait que là, elle me dit, ah ouais, brocoli, ça. Puis là, je voulais tellement être au service de ma chum que je l'ai lu. Je sais pas vraiment ce que j'ai lu parce que j'étais vraiment comme en technique en train de lire quelque chose pour elle. Puis je me suis pas accrochée une fois. Fait que là, je me suis dit, hein, je suis peut-être guérie. C'est hallucinant. Fait que après ça, j'ai récidivé devant une salle de 800 personnes où il fallait que je présente Kim Richardson. Puis j'avais dit non au début, mais après ça, j'ai entendu ma chum parler dans ma tête qui m'avait dit après avoir lu à son mariage, « T'es belle quand tu sors de ta zone de confort. T'sais, ah ouais, vas-y, continue, tu vas avancer de même. » Fait que je me suis ramassée sur la scène à commencer à lire le texte. Puis la feuille, elle a commencé comme à trembler. Puis là, je me suis comme dit, ben la première rangée puis la deuxième rangée, c'est sûr qu'ils voient ça. Puis là, ben finalement, je me suis accrochée. Puis là, je me suis effondrée en larmes. Puis là, j'ai dit à tout le monde, mais là, je m'excuse. Je lis jamais devant le monde. Mais là, je voulais essayer parce que j'ai réussi à le faire il n'y a pas longtemps. Puis je voulais récidiver pour sortir de ça, tu sais, de cette peur-là, parce que je suis dyslexique et tout ça. Puis là, je m'excuse, vous allez faire partie de ma thérapie, mais je vais lire jusqu'à la fin. Fait que, parce que moi, je ne lâche jamais, tu sais. Fait que là, j'ai lu, en me crochant, voici Kim Richardson. C'est effrayant. Mais bon, je l'ai fait, puis je pense que c'est le début du moment où je me suis dit, OK, là, je pense qu'il faut que j'aille voir, que je passe... que je passe à un autre niveau, là, que je lâche ça, là, cette peine-là d'enfance qui te suit. Puis c'est fou parce que c'est des affaires qui se passent quand on est jeune. Puis si on y pense, là, tout le monde qui est ici, là, c'est les affaires qui nous marquent le plus puis qu'on traîne longtemps dans notre vie. Mm-hmm. Fait que ça a été le début d'une rencontre avec moi-même.
Qu'est-ce que la thérapie t'a apporté par la suite? Parce que c'est au même moment ou presque que ce moment-là, ou en tout cas, ça a suivi.
Oui, par après. En fait, j'avais 42 ans. C'est ce que ça m'a apporté, c'est de laisser mon vieux mécanisme de défense de quand j'étais petite, d'arrêter de me crier des noms, de me dire que je suis pas bonne, que je suis pas, tu sais, d'être comme plus spectatrice, tu sais, de regarder puis de faire comme, mettons que je vois là, cette fille-là qui fait cette carrière-là, qu'est-ce que j'en penserais si ma meilleure amie, elle me dit qu'elle était pas bonne alors qu'elle fait tout ça? Puis qu'elle va voir les enfants dans les hôpitaux, qu'elle anime Opération Enfant Soleil, qu'elle a écrit 295 épisodes de Germaine, 102 épisodes des Minitombes, qu'elle a fait 10 albums, qu'elle a tout écrit alors qu'elle est dyslexique. Qu'est-ce que je penserais d'elle? Ben, j'écrirais pas des noms. J'irais, ben, bravo. Ben, bravo. Fait que j'ai commencé à avoir de la compassion pour moi, finalement, à faire comme, hey, garde, t'as rushé, hein? T'as travaillé fort. Puis, tu peux-tu te dire que c'est beau, être fier de toi un peu? Puis, savourer ça, tu sais. Puis, que quand quelqu'un te dit que t'es bonne, moi, j'ai arrête, tout le temps, tu sais, arrête, là, là. Mais là, de le prendre, tu sais, tantôt, il y a quelqu'un qui est venu, une maman qui avait les larmes aux yeux, puis elle a dit merci pour ce que vous avez fait pour mes enfants. On a vécu des beaux moments, puis moi, ça me touche quand je pense à ça. Bien, je l'ai pris. Avant, je le prenais pas. J'ai dit, ben voyons, ben non, c'est rien, là, rien que moi, tu sais. Mais là, je l'ai pris. Je dis, oh, merci, ça fait du bien. Fait qu'il y a des affaires qui rentrent maintenant dans mon cœur, tu sais, qui ne rentraient pas avant d'avoir fait cette thérapie-là. Puis je pense que, pas tout le monde, mais la plupart des gens, à un moment donné, dans leur vie, il faut qu'il y ait une rencontre avec eux-mêmes. Puis je l'ai eu, puis oh là là, que c'est bon, que c'est doux.
Annie, on parlait de zone de confort tout à l'heure en 2017. T'as fait un show à Juste pour rire, un one-woman show, en parlant de sortir d'une zone de confort, là, c'était carrément autre chose. Hein?
Ça, c'était carrément autre chose. Puis, sincèrement, mais en fait, ça, c'est Joël Legendre qui m'appelle. Lui, il l'avait fait l'année d'avant.
C'était le premier, d'ailleurs, de cette série-là.
Non, c'était le deuxième, je pense. C'était Monsieur Roseau.
Ouais. Oui. C'est vrai, c'est vrai, le premier, c'est lui.
Oui, c'est ça. Puis après ça, Joël l'avait fait. En fait, c'est dans la série Ben voyons donc. Donc, c'est quelqu'un qui fait un spectacle humoristique. Que tu pourrais pas t'attendre que cette personne-là fasse ça, tu sais, fait que je rentrais carrément dans le thème, on s'entend. Fait que, ben, mon ami Joël m'appelle puis il me dit « Annie, je pense vraiment que c'est fait pour toi, tu sais. » Puis il connaissait un peu tout ce qui se passait dans ma vie puis tout ça. Pis j'ai fait comme « T'es-tu malade? » Mais j'étais vraiment profondément touchée qu'il ait pensé à moi, tu sais, parce qu'il dit « Je sais que t'es capable, Annie. » Puis moi, non, c'est sûr que je suis pas capable. J'ai pas ce gars-là, puis j'ai pas... Puis finalement, ben j'ai dit non. Puis le lendemain matin, je prenais ma douche, puis je me suis comme dit, ça serait quoi le titre, hein? Mettons, là, juste pour le fun, le titre de mon One Woman Show. Puis là, je me suis dit, ben ça serait la Vierge Annie. Puis là, j'ai commencé à écrire là-dessus. Ça a parti toute seule, tu sais. Le fait que quand tu es une chanteuse pour enfants, ben, on n'imagine pas que tu puisses avoir une sexualité. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme la chanteuse pour les papas, tu sais, supposément qu'ils me trouvaient bien cute. Mais il y avait un désert d'hommes autour de moi. Parce que, tu sais, qu'il y a quelque chose que tu touches pas à ça, une chanteuse pour enfants. Tu sais, c'est un peu comme bizarre. Tu sais, il y a comme un côté sain qui vient avec ça. Avec l'auréole au-dessus de la tête, mais en même temps, tu la trouves cute. Fait qu'il y avait, comme... Moi, il y avait un désert d'homme. Il n'y avait personne autour de moi. Fait que j'avais plein d'affaires à démystifier, tu sais. Aussi, de toute la pression qui vient avec le fait d'être une chanteuse pour enfants, que tu te dis, ben il faut que je sois presque parfaite parce que c'est pour nos enfants. Ouais, c'est ouais. Important, là. Il faut que tu sois un beau modèle. Puis moi, j'ai pris ça au sérieux au bout, évidemment. Fait que j'ai commencé à écrire ça, puis là, finalement, j'ai rappelé Joël, j'ai dit, écoute, es-tu smart, le gars avec qui je ferais ça? Il dit, ben oui, c'est Patrick Roseau, il est tellement gentil, c'est un gars hyper humain, puis tu serais en sécurité avec ce gars-là, puis là, là. Je vais l'appeler, je vais écouter le son de sa voix, voir. Tu sais, voir s'il y a quelque chose d'attendrissant, s'il y a quelque chose de... Finalement, j'ai parlé à Patrick, puis je suis tombée en amitié en dedans de 10 secondes, puis j'ai écrit 43 pages là-dessus. Sur tout mon passage d'Annie Brocoli, toutes les anecdotes qui me sont arrivées. Puis, ça m'a fait un bien immense. Ça a vraiment comme recollé tous mes morceaux, tu sais. La chanteuse pour enfants est encore là, mais la femme est arrivée. Tout, c'est comme je suis devenue entière. Puis, ben Patrick, il m'a poussé à aller plus loin aussi. Il m'a poussé dans la mise en scène. Fait que je suis sortie de là avec, avec un gros sourire en face, mais en me disant que ça se pouvait aussi que je puisse faire autre chose, tu sais. Que ça se pouvait que je sois moi à 100 % avec mes défauts puis mes erreurs, parce que j'ai parlé de mes erreurs, là, des choses que j'ai, que j'ai regrettées ou que j'ai faites dans ma vie, puis que le monde m'aime pareil, puis que j'étais capable de livrer ça. Fait que ça ouvre des œillères, tu sais, ça ouvre à la vie, en fait.
Depuis 15 ans, tu animes le Téléthon Opération Enfant-Soleil chaque année au mois de juin. C'est comment pour toi ce rendez-vous-là?
Ah, c'est impossible que je le manque. Impossible, impossible, impossible. L'année passée, ils ont changé les dates parce que, bon, il y avait le G7 ou je sais pas trop quoi,
puis
là, à
tous
Québec.
Tous les hôtels étaient réservés.
Exactement. Là, fait que, puis moi, j'avais un show cette date-là. Je fais comme, OK, là, faut tasser ça. Ça se peut pas. C'est impossible que je sois pas là. C'est vraiment c'est un meeting, premièrement, avec moi-même, avec mon ami aussi, Maxime Landry, puis toute la gang. Ça, c'est dans notre cœur. Mais c'est une façon de remettre aux enfants puis à toutes les familles. Parce que quand un enfant est malade, c'est toute la famille qui pogne le rhume. Là. C'est tough, le petit frère, la petite sœur, tout ça, de les soutenir. Tu sais, parce qu'on peut tous faire des affaires comme tout seul, mais quand tu t'associes à un organisme aussi fort, on dirait que tu avances. C'est comme une grosse vanne. Tout arrache. Puis là, ça, c'est comme se donner la main, tous les Québécois ensemble, puis on avance. T'sais, ça me fait du bien de sentir qu'on bouge des montagnes, tout le monde ensemble. Fait que je sors de là comme avec le sentiment d'avoir fait quelque chose, t'sais, puis d'avoir tendu la main aux Québécois, au monde. Puis pour vrai, on y croit à Opération Enfant-Soleil. Mm-hmm. On se bat pas. Tu, toi aussi, tu amasses des sous pour Opération Enfant-Soleil. Puis dès que tu dis le non, on a confiance. Fait que c'est facile d'avancer avec eux autres, tu sais. Alors que c'est pas comme ça avec tous les organismes. Il y en a qui sont moins connus, ça veut pas dire qu'ils sont moins bonnes. Mais ça, c'est fort. Fait que tu peux bouger les affaires plus facilement.
Quand tu vois le chiffrier à la fin, le dernier chiffrier qui bat de record en record à chaque année... Est-ce que c'est un moment émouvant pour toute l'équipe, ça? Évidemment, il y a la fatigue qui est là, déjà partant. On pleure plus vite, peut-être. Mais c'est comment de voir ce gros chef-là qui grossit sans arrêt, d'ailleurs?
C'est tout le temps bien énervant. Parce que, pour vrai, on le sait pas, tu sais. On sait pas du tout, nous autres, où est-ce qu'on s'en va avec ça. On sait, bon, à peu près combien genre Remax, on sait un peu ce que Walmart a amassé, mais on savait jamais qu'il avait amassé tant cette année. C'est incroyable, là, ce qu'ils ont fait. Mais il y a aussi le téléphone qu'on sait pas, tu sais. Ça sonne-tu, ça marche-tu, puis le dernier sprint, qu'est-ce qu'il va faire? Fait qu'on est toujours sur les nerfs, là, mais comme bien stressé. Puis on dit aux gens, hey, là, c'est la dernière demi-heure, là, faut que vous donniez. Puis on le dit, mais avec conviction, on a peur de pas se rendre où on était. Tu sais, on voudrait pas amasser moins pour les enfants. Fait qu'à chaque fois que ça arrive, puis que ça sonne, puis qu'on est à peu près au même montant, ou des fois plus, on hallucine. Là. C'est beau parce qu'on sait concrètement ce qu'on fait pour vrai dans la vie des enfants. On se promène dans les hôpitaux. Là, je pars d'ailleurs dans 3 semaines.
C'est les remises des octrois qui commencent,
oui,
effectivement.
Exactement. Fait qu'on va rencontrer les enfants, les parents dans les centres hospitaliers. On remet les sous. Mais on voit aussi tous les instruments qu'on a acheté, toutes les machines qui sont là, puis c'est lettré, c'est marqué Opération Enfant-Soleil. On rencontre des familles qui disent, ben moi, Opération Enfant-Soleil, il a sauvé mon enfant. S'il n'y avait pas eu cette salle-là de trauma, ben mon enfant serait mort, etc. T'sais. Fait que c'est concret. Là. Fait qu'on le sait, là, quand on voit 20 millions point cuc, là, on sait que ça va faire, ça va changer des vies.
Annie, tu donnes des conférences.
Oui.
Maintenant, c'est ta nouvelle vie. Mm-hmm. Comment ça se passe jusqu'à présent? Puis tu en fais beaucoup. Là. Tu me disais avant qu'on entende 6, juste
cette semaine
passée.
Là, ouais.
Cette semaine,
oui. Oui, exactement. Ben c'est complètement nouveau. C'est plein d'adaptations parce que tu vois, comme avant, quand je faisais des spectacles, c'était... Je voyais les enfants dans un moment où ils ont du plaisir, où ils ont de la joie, puis tout ça. Là, évidemment qu'on rit aussi durant la conférence, sauf que, par exemple, hier, j'étais dans une école primaire avec des petits. Puis, sauf que là, on se dit les vraies affaires. Là, il n'y a pas de personnage. Je dis mes défauts, je dis mes bons coups et mes mauvais coups. Puis là, à un moment donné, je demande aux enfants de se lever, de venir dire c'est quoi leur différence, c'est quoi leur besoin de la part des autres, de leurs camarades, et c'est quoi la force qui est cachée derrière leur différence, tu sais. Fait que, par exemple, il y a un petit autiste qui se lève, puis dit ben bonjour, mon nom c'est Antoine. Moi, je suis autiste. Qu'est-ce que tu aurais besoin de la part de tes camarades autour de toi? Bien, j'aurais besoin que tu sois plus gentil. OK. Avez-vous envie d'être plus gentil avec lui? Là, oui, tout le monde, tu sais. OK. Puis toi, c'est quoi ta force derrière ta différence? Dis, ben moi, je suis bon en maths. Je, les autres, aimeriez-vous ça, tu sais, avoir de l'aide en mathématiques? Fait que là, tout le monde, oui! Puis là, tu y vois la face, tu sais, qui... plein de bonheur, ou encore, il y en a une autre qui arrive, elle dit, ben moi, je suis mise de côté, puis elle se met à pleurer, mais devant toute l'école, devant 300 personnes, tu sais. Puis moi, j'aimerais ça, avoir des amis, puis... Fait que c'est des moments beaucoup plus c'était très touchant aussi avant, mais des moments intenses en émotion, plus difficiles, si tu veux. Mm-hmm. Fait que là, je suis en train d'essayer de digérer tout ça, puis de pas de revenir avec ces moments-là chez moi, mais pas les traîner avec moi, parce que moi, mon cœur, il reste là, puis je me dis, j'aurais-tu pu dire ça, pauvre petite, tu sais. Puis là, je l'ai pris dans mes bras, je dis, je t'aime, puis regarde, ils sont ouverts, faut que t'essayes, puis vas-y. Mais je reste encore avec ça, tu sais. Fait que c'est un travail, une adaptation, où là, au lieu de revenir chez nous les bras dans les airs, après un show d'Annie Brocoli, comme ça, ben là, je reviens chez nous avec des pensées, me dire, oh boy, OK, elle, il y avait ça. Tu sais, c'est beau, là. C'est tellement humain. Je demande aux enfants d'afficher leurs différences. Fait qu'ils ont tous fait comme un travail avant pour venir à la conférence. Puis ils lèvent à un moment donné dans les airs leurs différences qui est écrite sur un papier. Okay. Puis avec fierté, tu sais. Garde, moi, je suis ça. Puis après, en arrière de ça, il y a ça de caché. Tu sais, moi, c'est mon imaginaire que de cacher derrière ma dyslexie. Mais il y a un petit garçon hier qui me disait, ben moi, je suis TDAH, mais moi, je suis un petit gars vite, par exemple. Je vais te répondre vite. Puis j'ai des idées bien vite. Fait que si t'en as besoin, tu sais, je suis là. Fait que là, ce que je leur dis de faire, c'est de faire du troc, d'échanger des affaires. Toi, t'as besoin d'amis, t'as besoin qu'on t'écoute. Ben elle peut t'aider dans ça. Fait qu'on échange des affaires. Hein? C'est ça que j'essaie d'instaurer. Mais c'est beaucoup d'émotions, disons. À digérer. Fait que j'imagine que je vais apprendre à tout canaliser ça, puis à pas avoir le goût d'appeler la petite fille immédiatement en arrivant chez nous, puis en me disant qu'elle va faire son chemin avec ses parents, puis avec ses professeurs. Mais là, j'y ramènerai tout dans ma maison.
Mais il y a une fierté aussi d'aider ces gens-là, en tout cas, de leur faire accepter cette différence-là, parce que c'est de ça dont on parle de plus en plus, la différence. Le besoin d'avoir sa place en société, mais le fait qu'on est souvent mis de côté quand on est différent.
Mais oui, tout à fait. Puis, on est mis de côté par rapport aux autres, mais souvent, on se met de côté. Tu sais, ce que je disais tout à l'heure, que je me parlais fort, bien, je disais l'intimidation, ça commence d'abord avec soi-même, tu sais. Tu peux pas te crier des noms. Te crier des noms, c'est comme faire une jambette à quelqu'un qui a déjà la patte cassée. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire des jambettes tout court, mais c'est encore pire, tu sais. Fait que de tout ça dont on parle... Puis ça me fait du bien de savoir que j'ai déjà leur confiance. J'ai la confiance des professeurs, j'ai la confiance des enfants. Fait que j'ai la chance d'aller faire une différence, puisque c'est le thème, la différence. Oui. Mais aussi, j'en fais dans les entreprises, tu sais, dans les femmes, avec des femmes d'affaires, dans des organismes aussi, pour les gens différents. J'en fais pas juste dans les écoles, j'en fais un peu partout. Puis il y a des témoignages qui sont tellement bouleversants. Puis j'ai toute l'empathie du monde parce que je l'ai vécu, tu sais, d'une certaine façon, à ma façon, parce qu'on est tous différents. Mais c'est... tu sais, j'aurais pas pu faire ça il y a 5 ans, par exemple, parce que c'était pas fini dans mon être. Mais là, après ça, avec le livre, on dirait que là, je peux... être au service des autres tout en étant à mon service. T'sais. Là, il reste juste à digérer ça dans mon char là, quand je m'en reviens et que j'ai vu des gens avoir la peine d'être capable de faire comme OK, Ils sont capables. Tu leur as donné des beaux outils. Maintenant, ça leur appartient de, tu sais, d'essayer de lâcher ce bout-là. Mais ça va venir, je pense. J'apprends.
S'il y a des gens, des écoles ou des corporations d'affaires ou des entreprises qui veulent avoir ta conférence, on fait comment?
On va sur mon site Internet. Il y a deux descriptions, en fait. Celle pour les enfants, pour les écoles, puis l'autre pour les entreprises. Parce qu'on peut, parler de la différence dans les entreprises, ne serait-ce que générationnelle, tu sais. Maintenant, bon, les baby boomers et la génération X travaillent avec des milléniaux. Puis des fois, ça fait un méchant choc. Sauf qu'il y a vraiment de quoi apprendre de l'un, d'une génération et de l'autre. Tu sais, nous, génération X, qui avons travaillé comme des fous workaholics, alors qu'un milléniaux arrive, fait comme, ben moi, je vais partir à 5 heures parce que je vais chercher mon enfant. Et ce soir, j'ai des cours, j'ai besoin de me reposer. Ben, ça serait le fun que la génération X, on se dise, peut-être quelque chose que je pourrais apprendre de ça, là, tu sais. Peut-être qu'on nous autres, on finira à 6 heures au lieu de 4h30, mais il y a quelque chose à apprendre de respectueux. Puis en même temps, les milléniaux ont beaucoup à apprendre de nous, qui avons inventé nos jobs, qui avons, tu sais, fait que ça, c'est un des thèmes, mais il y en a plein d'autres aussi, comment démarrer son entreprise, comment tout ça. Alors, voilà.
Est-ce que ton projet de livre que tu avais au départ, qui devait être un film, verra le jour?
Philémon, ouais? J'ai l'impression que ça va devenir un livre.
Ça serait le prochain projet?
Probablement. J'en ai un autre là, qui s'en vient peut-être un peu avant, là, mais dans les prochains, oui. Puis il est beaucoup avancé dans ma tête, mais là, comme ça se passe au Québec, vraiment un endroit précis, j'ai beaucoup de recherches à faire. Ouais. Fait que je vais commencer par ça, mais l'histoire est toute... Puis c'est comme un... C'est en trois tomes.
OK.
Parce que c'est trois époques de sa vie.
OK. Fait que là, on va avoir... C'est une trilogie.
Ouais. Okay. On va avoir son enfance, puis après ça, vie adulte, début adulte, puis après ça, plus vieux.
Annie, j'invite les gens à se procurer En mal des mots,
oui.
Ton premier livre qui est disponible partout. T'en as ici, si jamais les gens en veulent.
Oui.
Merci d'avoir été là aujourd'hui.
Merci à toi. C'est toujours un bonheur de trop se confier à toi. Parce que c'est ça que t'inspire. T'inspire la confiance, puis on a le goût de tout te dire. Alors, je vais vivre avec ça. Merci beaucoup
Merci
pour ton
toi.
Écoute.
Merci beaucoup.